d'Europe, Juliette Rangeval.
Bonjour, gros temps sur le dossier pêche, pas d'éclaircies sur ce conflit qui oppose la France au Royaume-Uni. Une nouvelle rencontre est prévue, mais Paris s'impatiente. Clément Beaune affirme qu'une solution rapide doit être trouvée pour les pêcheurs en application de nos accords. Des propos tenus à l'issue d'une rencontre mardi avec David Frost, son homologue britannique chargé du Brexit. Parce que la pêche est au cœur du Brexit. Les pêcheurs britanniques ont voté massivement pour la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, espérant voir leur sort s'améliorer dans une industrie très concurrentielle. Espoir aujourd'hui largement déçu. C'est un reportage signé de notre correspondant Marie Billon.
Martine regarde un peu hébété son bateau attaché au port de Ramsgate sur la côte du sud-est de l'Angleterre. Il est pêcheur depuis 30 ans, mais il a dû déménager récemment.
Après le vote en faveur du Brexit, j'avais des rêves et des aspirations. Dans ce climat de confiance, j'ai acheté un bateau qui me faisait envie depuis 30 ans. Jusqu'à il y a quelques semaines, il était à New Haven, dans le sud, mais j'ai dû le bouger ici à Ramsgate pour fuir la concurrence avec les gros bateaux industriels.
Martin a donc abandonné la Manche pour la mer du Nord avec son nouveau bateau. Il avait acheté le Sarah Jane juste avant que Londres et Bruxelles ne s'accordent sur le traité du Brexit, un accord que Martin et de nombreux pêcheurs vivent comme une trahison.
J'y ai cru jusqu'à la dernière minute. Le Brexit qu'on nous avait promis jusqu'en décembre dernier permettait de récupérer la zone jusqu'à 12 000 marins des côtes, exclusivement pour les pêcheurs britanniques. Ils ont lâché au tout dernier moment.
Ce que Martin reproche au gouvernement britannique, c'est d'avoir accordé beaucoup de licences aux super chaluts et chalutiers de fonds européens qui lui font littéralement de l'ombre dans la Manche.
Ils m'ont transformé en nomade de la mer. Dès que je les vois, il faut que je m'en aille. Je suis obligé de vivre sur mon bateau, à la dure. Je ne peux pas rester dans leur parage parce qu'ils sont tellement efficaces qu'il n'y a plus de poissons à pêcher pour nous.
Sur le port de Ramsgate, Martin retrouve John Nichols. Aujourd'hui à la retraite, il reste le président de l'association des pêcheurs de la région de Thanet. Ensemble, en septembre, ils ont signé une lettre ouverte sous l'égide de Greenpeace adressée au gouvernement britannique. Ils lui demandent d'interdire à certains gros bateaux de lancer leur grand filet dans la Manche ou bien de les restreindre à des zones précises.
La pêche industrielle dans la Manche nous inquiète beaucoup. Le Channel n'est pas très grand. Il ne peut pas continuer à subir les dégâts que cette pêche intensive lui impose. Ce sont surtout des bateaux danois qui n'ont plus le droit de pratiquer la pêche électrique, mais sont devenus des chalutiers de fond. Ça n'a rien à voir avec le Brexit. Nous parlons de la conservation des milieux marins et de la survie des petits pêcheurs britanniques.
Mais le fait est que John espérait reprendre le contrôle des eaux britanniques et que le Brexit de Boris Johnson rend cela impossible.
La Commission se bat vraiment pour les pêcheurs européens. Notre gouvernement, lui, a tendance à céder. Donc, je suis plus critique et déçu par Londres. Nous voulions que notre gouvernement reprenne le contrôle des eaux britanniques, ce qui ne veut pas dire que les Européens n'auraient pas pu pêcher chez nous, mais ils auraient eu le droit de le faire sous notre contrôle.
John et Martin semblent persuadés que Londres aurait pu donner la priorité à la conservation et à la protection des réserves de poissons. Alors, la solution qu'ils ont trouvée, c'est d'appeler à la coopération internationale au nom de l'écologie marine à travers Greenpeace. Au plus haut des tensions entre Londres et Paris, Martin a même tenu à envoyer un message à ses confrères de l'autre côté de la Manche.
Nous faisons appel à la solidarité. Why did you say that?
Martin avait prévu qu'il n'arriverait pas à tout dire, alors il a demandé de l'aide à un traducteur électronique.
Nous faisons appel à la solidarité de nos frères et sœurs, les pêcheurs artisanaux de France, avec qui nous avons bien plus en commun qu'avec les scènes danoises et les pêcheurs industriels.
Je voulais faire passer le message car je n'ai aucun problème avec les pêcheurs artisanaux français parce qu'ils sont comme nous. Comme nous, ils ne vont pas pêcher plus que nécessaire. Ils respectent l'environnement. Ils vendent leurs poissons au marché ou sur le quai comme nous voudrions le faire. Pourquoi je critiquerais ce mode de vie? C'est ce à quoi j'aspire.
Martin et John estiment aussi que certains quotas sont équivalents à de la surpêche, car ils s'appuient sur des données dépassées. Là encore, ils assurent que ce n'est pas politique, mais uniquement pour préserver les fonds marins.
La mer Adriatique est la principale ressource de la Croatie, avant tout pour le tourisme et pas vraiment pour la pêche, surtout depuis que le pays est entré dans l'Union européenne en 2013 et que les petits bateaux locaux subissent la concurrence des puissantes flottes du marché commun. Les explications de Simon Rico.
Pour les pêcheurs croates, le 1er juillet 2013, date de l'entrée de leur pays dans l'Union européenne, n'a pas été un jour de fête. Au contraire, depuis l'entrée dans l'UE, beaucoup de petits pêcheurs croates ont en effet préféré renoncer à leur activité, profitant des subventions européennes pour se reconvertir, la plupart dans le tourisme. Résultat, les grandes flottes européennes, essentiellement italiennes, sont venues pêcher dans les eaux croates, d'autant plus facilement que Zagreb a été contrainte par Bruxelles de renoncer, en 2008, à sa zone de protection écologique et de pêche en Adriatique, en vue de son intégration. Du fait de la raréfaction de la ressource en poissons, des quotas de pêche ont fini par être mis en place, mais cela fragilise encore un peu plus les petits patrons croates, dont la pêche est pourtant plus durable que leurs concurrents à filet pélagique. Restent aussi plusieurs problèmes structurels internes qui freinent le développement de la pêche en Croatie, dont les principaux sont le manque d'infrastructures dans les ports, de plus en plus dédiés à la plaisance pour les touristes, et le peu d'aide publique pour soutenir ce secteur en difficulté. En 2016, la Croatie a pêché et élevé à peine 17 000 tonnes de poissons, ce qui ne couvre même pas la consommation nationale, pourtant très faible. Les Croates mangent environ 10 kilos de poissons par an, presque 3 fois moins que la moyenne européenne, alors que leur pays est entièrement tourné vers la mer. Résultat, les poissons d'importation se taillent la part du lion pour des questions d'économie, encore une fois.
Un dragon fils est en fête, entendez les appels stridents que font retentir les trompettes. Sabrez sans pitié, sans quartier, narguant les balles, la mitraille, cet ennemi qui trop assied, derrière ses canons nous raille.
Près de 20 millions de morts, 21 millions de blessés, de mutilés, militaires et civils. Le 11 novembre, souvenir de la Grande Guerre et de ce déluge de fer et de feu qui s'est abattu pendant la Première Guerre mondiale dans le nord de la France. Le long de la ligne de front, 1 milliard d'obus auraient été lancés. Alors chaque année, ce sont 70 tonnes de munitions qui sont découvertes en Picardie, ce qui nécessite l'intervention des démineurs basés dans le département de l'Aisne. Lise Verbeek est allée les rencontrer dans le centre interdépartemental de déminage, c'est près de Laon.
Le centre de déminage est perdu dans la campagne picarde.
Tournez à droite, puis tournez à droite.
Et cela ne s'invente pas, il se trouve au lieu dit la poudrière.
Bonjour.
Un café ou quelque chose ?
Le commandant Gilles Soreau est le chef du centre.
Donc là, on est dans le bureau des opérations. Donc c'est ici qu'on concentre un peu toute la gestion de l'activité d'un centre de déminage, à savoir le pointage des demandes d'enlèvement de munitions.
Donc là, dans le bureau, pour décrire, il y a une grande carte avec différents points.
Alors, les endroits où on retrouve le plus de munitions, c'est essentiellement tout le secteur de combat 14-18. Ce qui était intéressant à voir, c'est que pendant le confinement, on faisait que les urgences et donc les demandes se sont accumulées. On a eu jusqu'à 240 demandes d'enlèvement de munitions à faire une fois qu'on a déconfiné. Et en fait, on retrouvait tout le secteur chemin des Dames et ça remonte en direction d'Arras. On voyait bien la ligne de front.
Et ces munitions de la Première Guerre mondiale, c'est quoi ?
Bah, essentiellement, c'est du petit calibre, donc 75, différentes nationalités aussi, anglais, français, allemand. Et ça peut aller jusqu'à des grosses munitions, mais beaucoup plus rares.
Sur le bureau des démineurs, des munitions trônent.
Voilà, il y a un petit minon, ce qu'on appelle un minon de 76-2. C'était des munitions de tranchées pour du combat rapproché. Et certains, c'était intéressant, pouvaient être porte-message. C'est-à-dire qu'en fait, l'obus se séparait en deux, il y avait un petit pot fumigène, et ça permettait d'envoyer un message sur une position alliée, mais à côté.
Et vous en avez déjà retrouvé, vous, des messages?
Non, ça peut arriver, mais des messages, j'en ai jamais trouvé. Mais le jeu, c'est quand on le trouve, on arrive à l'ouvrir, on remet un petit message dedans, et on sait qu'il y en a un de chez nous qui va le trouver, et qui va sortir le message, et on lui met, trop tard, on est déjà passé avant toi. Et c'est le côté un peu rigolo, un peu fun.
Le centre compte 18 démineurs, dont Arnaud Lojard, et l'activité ne manque pas.
Tous les jours, on a au moins, sur le stand des minages de Lens, au moins 2 à 4 équipes qui sortent pour ramasser les munitions. C'est-à-dire qu'on reçoit des demandes de boîtes de travaux publics, d'agriculteurs, de particuliers qui découvrent des munitions chez eux ou lors de travaux, ou lors d'excavations. Et on est appelé pour aller retirer ces munitions sur les 3 départements qu'on gère, c'est-à-dire la Somme, l'Oise et l'Aisne. Et ça représente sur une année quasiment 1300 demandes. Et cette année, je pense qu'on va dépasser les 100 tonnes de munitions récoltées.
Quelles sont les qualités qu'il faut quand on est démineur ?
Savoir travailler en équipe. Et savoir tous les jours se remettre en question. Parce qu'en fait, les munitions qu'on trouve, c'est souvent les mêmes. Mais souvent, ça veut pas dire toujours. Ce qui fait que par moment, on peut trouver une munition qu'on n'a pas vue, qu'on n'a pas étudiée. Et là, il faut savoir investiguer, savoir où chercher, savoir à qui demander éventuellement aussi. Et puis, au-delà de ça, il faut connaître ses limites parce que le plus important, c'est de rentrer le soir à la maison. Quand on explique ce qu'on fait, les gens sont surpris parce qu'ils pensent que déjà, on est tous militaires. On n'est pas militaire, on est fonctionnaire de police, on est détaché à la sécurité civile. Et après, il y a notre quotidien et puis il y a surtout l'image qui est véhiculée par le cinéma, qui est souvent une image qui est un petit peu fausse, une image de tête brûlée où les gens se dopent à l'adrénaline en allant détruire des munitions. C'est pas ça du tout. Et au final, on intéresse les gens parce que c'est vrai que c'est un métier qui est pas commun, les 330 en France.
En moyenne, donc, chaque année, lui et ses collègues récoltent 70 tonnes de munitions, dont 10% environ sont des obus chimiques. Des munitions qui sont ensuite détruites à une 30aine de kilomètres du centre sur un terrain militaire. Il y a un mois, un village de l'Aisne, Le Vergy, a dû être évacué totalement après la découverte de 25 tonnes d'obus allemands. Une grosse opération pour l'équipe qui a dû demander du renfort au niveau national.
Alors pour analyser une munition, on regarde si elle a été tirée ou pas. Donc on a certains critères comme la bague de forcement qui se trouve à l'arrière de l'obus, si elle est striée ou pas, savoir si cette munition a été tirée. À Le Vergy par exemple, les munitions n'étaient pas tirées, c'était des munitions qui étaient stockées, qui avaient sans doute subi un dommage par une explosion voisine qui rendait les munitions impropres au tir. Et ces munitions étaient stockées, donc elles étaient facilement transportables et déplaçables.
Sachant qu'un obus, ça pèse combien ?
Alors les obus de Le Vergy, les plus gros pesaient dans les 50 kilos. Et il y avait 904 obus, en moyenne 904 obus à enlever. Et la majorité, c'était du gros calibre.
Il a fallu 4 jours pour retirer tous les obus. Des découvertes de cette ampleur arrivent tous les 10 ans environ, selon les démineurs. Quant aux munitions en général, les chercheurs estiment que l'on pourrait en retrouver enfouis dans le sol pendant encore 600 ans.
La guerre a passé sur un village suisse. Nous savons bien qu'en comparaison avec tout ce que souffrent d'autres villages et d'autres villes, cela est fort peu de choses.
De l'arsenic, du cyanure, de la poudre explosive reposent à quelques dizaines de mètres sous l'eau dans les lacs suisses. D'après les autorités, plus de 8000 tonnes de munitions ont été immergées dans les lacs du pays après la Seconde Guerre mondiale. Le problème, c'est qu'on ne sait pas vraiment ce qu'elles contenaient, ni même où elles ont été jetées. Certains s'inquiètent d'éventuels dommages pour l'environnement et la santé. À Genève, Jérémy Lange.
Ce sont les industriels qui se sont débarrassés de ces munitions après 1945, faute de pouvoir écouler leur stock. La solution la plus simple consiste alors à jeter les bombes, les grenades et les autres cartouches de fusil au beau milieu du premier lac, ce qui n'est pas très difficile à trouver en Suisse. Au début des années 2000, les autorités se saisissent du sujet et demandent une analyse toxicologique des eaux. Celle-ci révèle une augmentation de la teneur en cuivre et en zinc de certains lacs, mais dans des proportions très faibles. Par ailleurs, les caisses de munitions ont depuis été recouvertes par plusieurs couches de sédiments, ce qui limite les risques de fuite. En tout cas, c'est ce qu'on croyait, jusqu'à ce que des plongeurs français découvrent des caisses de munitions éventrées dans le lac Léman, près de Genève, à 150 mètres seulement d'un point de captage d'eau potable. Les autorités locales s'en inquiètent. Elles ont demandé cet été une cartographie complète de ces munitions pour pouvoir évaluer les risques et surtout savoir si elles doivent être repêchées ou pas. Les premières opérations doivent avoir lieu avant la fin de l'année. Certains élus, qui craignent de voir des plongeurs amateurs se lancer dans une dangereuse chasse aux reliques de guerre, demandent déjà un assainissement total des lacs du pays.
Blatat,
Une Europe comme une tour de Babel avec Alice Rouja. Bonjour Alice.
Bonjour.
Cette semaine, on parle des langues européennes, nationales et régionales. Vous nous racontez ça en français, mais vous auriez pu le faire en basque ou en breton, c'est ça ?
En ce qui me concerne, j'aurais plutôt opté pour l'occitan, langue régionale du sud de la France. Mais je vais pouvoir citer qu'un proverbe en fait.
Ouais, c'est parti, allez-y.
Cocuts fan padagassas. Ça veut dire les coucous ne font pas des pis, qu'on traduirait par les chiens ne font pas des chats. Avec 540 000 locuteurs, l'occitan a été classé en sérieux danger d'extinction par l'UNESCO. Et malgré l'ouverture d'écoles bilingues français-occitan, la langue et son apprentissage se perdent auprès des jeunes générations.
Et en quoi est-ce que ça concerne l'Europe ?
Eh bien, la diversité linguistique est reconnue par l'article 22 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, au même titre que la diversité culturelle et religieuse. Donc l'Europe a un devoir de les protéger.
On parle combien de langues en Europe, Alice ?
Selon les dernières données fournies par le Parlement européen, il y a 24 langues officielles dans l'Union et près de 60 langues régionales ou minoritaires, elles-mêmes parlées par un dixième de la population européenne. L'occitan, c'est une langue régionale, au même titre que le breton, le gaélique ou le sarde. Et attention, hein, ne dites pas que ce sont des dialectes ou des patois. Déjà parce que ça en vexerait plus d'un, mais aussi et surtout parce que ces langues se lisent, s'écrivent, qu'elles ont une grammaire propre. Bref, elles sont complexes, ont une histoire et évidemment, elles véhiculent des traditions.
Donc il ne faut pas qu'elles disparaissent.
C'est ça. D'après le chercheur en linguistique Guillaume Jacques, une langue peut disparaître en seulement 3 générations. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, les langues régionales sont majoritairement parlées par des personnes de plus de 60 ans. Selon une étude de l'OLCA, l'Office pour la langue et les cultures d'Alsace-Moselle, 74% des 60 ans et plus parlent l'alsacien, contre seulement 12% des 18-29 ans.
Il existe d'ailleurs une charte, celle des langues régionales et minoritaires, qui a été ratifiée en 1998.
Oui, et elle vise à protéger et reconnaître ces langues rares en encourageant notamment leur visibilité dans les médias et en figurant dans les documents officiels. En Pologne et en Serbie, il existe 15 langues référencées administrativement. Et au Pays de Galles, état du Royaume-Uni, l'anglais est la langue officielle, mais les administrations, y compris les tribunaux, sont tenues d'offrir leurs services aussi bien en gallois qu'en anglais.
Cette charte veut aussi faciliter l'enseignement de ces langues.
Et c'est dans cette logique qu'en France, il existe des écoles bilingues. Elles ont plus ou moins de succès selon les régions. En Bretagne, par exemple, 3% des élèves de primaire suivent des enseignements en breton, un chiffre qui monte à 45% pour les écoles en langue basque. Et à Cardiff, au Pays de Galles, la ville s'est donnée pour objectif qu'il y ait 1 million de locuteurs gallois d'ici 30 ans en lançant un programme qui s'appelle SIMREG 2050.
Et comme une langue, il faut la pratiquer pour ne pas la perdre. Des programmes similaires existent aussi pour les étudiants à l'université.
Il existe de nombreux programmes Erasmus, vous savez, ces échanges universitaires européens. Du coup, des programmes Erasmus d'enseignement des langues rares. Je pourrais citer Your language sounds familiar. Ta langue me dit quelque chose. Un cours dispensé en Grèce et en Italie du Sud autour du gréco, parlé par environ 20 000 personnes dans ces deux pays. L'idée de ce programme, c'est de créer des ressources écrites comme un glossaire pour mieux diffuser la langue.
Est-ce qu'on peut apprendre des langues rares ailleurs qu'à l'école ?
Eh bien oui, on peut désormais utiliser des applications. Duolingo, pour ne citer que la plus célèbre, est utilisée par plus de 500 millions de personnes. On peut y apprendre le catalan, et c'est aussi le cas sur la plateforme de streaming Netflix grâce à une extension. Bref, on l'a compris, l'Europe est un vivier linguistique, pour ne pas l'oublier, et même pour le célébrer, il existe une journée européenne des langues, c'est le 26 septembre.
Merci Alice. D'ici là, vous aurez peut-être amélioré votre occitan et votre gallois, parce que je ne suis pas certaine de votre prononciation. Accent d'Europe à la réalisation, Françoise Grelot. L'émission est disponible en podcast sur RFI.fr ou sur les plateformes d'écoute. À bientôt.